perkeleen tontot!
Le vendredi, le métal fait son show sur Bike FM. Salut à tous, bienvenue dans l'émission Check Me Load qui, eh bien, chaque semaine vous propose un petit tour d'horizon des sorties moments en matière de métal. De métal avec un grand M, puisque on va se balader un peu dans toutes les esthétiques du genre. Et aujourd'hui, c'est une émission qui sera particulièrement marquée par la couleur trash et la couleur death, mais il y aura pas que ça, il y aura également du hardcore, du heavy metal, un petit peu de metalcore aussi. Et puis on aura aussi, petite surprise, on aura du dark country. Ça, ce sera pour la fin d'émission, juste avant la rubrique Sortez Cover qui va nous emmener aujourd'hui dans les années 80, mais malgré tout avec une nouveauté, puisque le morceau que je vais vous proposer est extrait d'un album qui paraît aujourd'hui. Voilà un peu ce qui vous attend pour la prochaine heure, et il est temps de démarrer les hostilités avec la grosse sortie de la semaine, la sortie événement. C'est bien évidemment le nouvel album de Loadblast qui est enfin là, qui est enfin dans les bacs. Nouvel album qui s'appelle Manifesto. Alors Loadblast, c'est un groupe qui est originaire de Lille, qui a vu le jour en 85. Il est créé par 4 jeunes musiciens à l'époque, parmi lesquels un certain Stéphane Burier, qui occupe le poste de chanteur et de guitariste, et dont le nom va vite devenir incontournable au sein de la scène métal hexagonale. Une réputation qui s'étend aujourd'hui bien au-delà de nos frontières, hein, puisque Stéphane Burier possède en effet de nombreuses cordes à sa guitare. En plus de ses talents de musicien, il s'est également illustré en tant que producteur, en tant qu'animateur télé, et j'en passe. Et pour les non-initiés, il est important que vous sachiez qu'en plus d'être le frontman de Loadblast, Stéphane Burier est également le guitariste du groupe Sincenom, alors groupe qu'il partage avec Joey Jordison, l'ex-batteur de Slipknot, et puis avec Fred Leclerc, qui est l'actuel bassiste de Loadblast. Et puis c'est pas tout, hein, puisque Stéphane Burier, c'est aussi un des 3 chanteurs de Weapons of Mass Destruction, le projet métal des Tambours du Bronx. D'ailleurs, on l'avait reçu dans ses studios à cette occasion, en 2018. Il nous avait parlé de ce projet avec quelques membres des Tambours, et puis également avec Frankie Costanza et avec Renaud de Lofofora, donc tous ces musiciens qui sont venus rejoindre les Tambours. Mais revenons à Loadblast, ce qui est sa formation principale quand même, et on va faire un petit point sur le line-up actuel du groupe. Alors, on y trouve, en plus de Stéphane Burier, un autre membre qui n'est pas historique, mais quasiment quand même, puisque c'est le batteur Hervé Coquerel, et il est quand même derrière les fûts depuis 1992. Alors il était pas là en 85, mais quand même il est là depuis un certain temps. Et puis pour le reste, justement, on a le bassiste Frédéric Leclerc, qui est donc compère de Stéphane Burier au sein de Sincenom, et un guitariste qui est arrivé en même temps que Frédéric Leclerc, c'est Jérôme Poincanovas. Donc tous les deux, ils sont arrivés en 2017 au sein de Loadblast, si je vous dis pas de bêtises. Alors, c'est quel style Loadblast, pour ceux qui ne connaissent pas bien la scène métal française? C'est tout simplement un fleuron de la scène death hexagonale, c'en est même un pionnier. C'est un groupe qui va d'abord sortir quelques démos et puis qui va ensuite sortir son premier album qui s'appelle Sensorial Treatment, ça c'est en 89. Suivront ensuite Disincarnate en 91, Sublime Dementia en 93, puis Fragments en 98 qui va devenir le plus gros succès commercial du combo, mais qui va aussi décevoir une partie des fans de la première heure qui vont considérer que Loudblast s'éloigne un petit peu trop de son death habituel pour plaire à un public métal plus large. On leur reproche notamment d'aller sur des terres un peu à la Machine Head, groupe qui est très à la mode à l'époque. Malgré tout, Fragments va devenir une référence dans la discographie de Loudblast, discographie qui va ensuite s'agrandir avec Planet Pandemonium en 2004, avec Frozen Moments Between Life and Death en 2011, puis avec Burial Ground en 2014. Alors 2014, c'était il y a 6 ans, inutile de vous dire donc que depuis ce temps-là, sans nouvel album à se mettre sous la dent, ça a été très très long et les fans avaient sacrément les crocs en vue de ce manifesto qui paraît aujourd'hui. Alors c'est un album qui a été produit de main de maître avec un S, puisque ses maîtres sont d'une part Stéphane Burrier, mais d'autre part, il a pas été tout seul, il a collaboré avec le très en vue HK Cross au Vacamara Studio. Et donc, ce 10e effet de Loudblast, c'est un album qui est intense, qui va droit au but. Un manifeste rageur qui est composé majoritairement par Stéphane Burrier, qui s'est énormément nourri des épreuves qu'il a traversées ces dernières années. Et c'est un album qui sonne comme un retour aux fondamentaux pour le combo, qui nous offre ici des réminiscences de ses premières productions, mais quand même avec une noirceur inhérente, elle héritée du ô combien sombre Burial Ground. C'est aussi un album sublimé par un artwork magnifique qui est signé par Eliran Cantor, qui est connu pour son travail entre autres avec Testament, avec Hatebreed. On peut dire que Manifesto, c'est véritablement un joyau trash death que nous offre Loudblast et qui ne fait que confirmer son statut de leader du genre en France depuis 35 ans. Alors notons au passage l'excellente prestation du batteur Kevin Foley, qui est un ex-membre de Benighted. C'est lui qui a assuré l'intérim pendant l'enregistrement de l'album, puisque Hervé Coquerel il était blessé à ce moment-là, et franchement il fait un travail exceptionnel. Mais assez parlé, il est temps de découvrir un extrait de cet excellent manifesto avec le très mélodique Erasing Reality. Voici tout de suite Loudblast avec un extrait de ce nouvel album. We'll be right back. C'était Load Blast à l'instant sur Bike FM dans l'émission Check Me Load avec le titre Erasing Reality, extrait du nouvel album du groupe qui paraît aujourd'hui. Ça s'appelle Manifesto, album énorme à écouter absolument si vous aimez le death, si vous aimez le trash, si vous aimez Load Blast. Ça pourrait devenir un album incontournable de la discographie de Stéphane Burrier et sa bande, et ça fait du bien de les retrouver avec du son neuf, les Load Blast. Voilà, album donc avec une très belle pochette en plus, je le redis, à découvrir dès maintenant, enfin attendez quand même la fin de l'émission. J'ai encore plein de choses à vous proposer et toujours justement parmi les sorties du 27 novembre, belle journée aujourd'hui en matière d'album métal. Cette fois-ci on va aller dans des contrées hardcore puisqu'on va retrouver Ed Reed qui sort l'album Weight of the False Self. Alors Ed Breed, c'est un groupe qui nous vient du Connecticut, d'une ville qui s'appelle Bridgeport, donc aux États-Unis bien évidemment. Groupe créé en 94 autour notamment du chanteur Jamie Jasta, du bassiste Chris Beatty et du batteur Chris Byrne. Alors eux, c'est les trois membres d'origine encore présents aujourd'hui au sein du groupe. Donc Ed Breed, c'est du punk hardcore qui trouve ses principales influences d'une part dans la scène hardcore new-yorkaise et puis d'autre part dans le thrash américain, dans le punk rock, voilà, un peu dans le heavy même quelquefois. Enfin bref, après une démo et un EP, Ed Breed va sortir un premier album en 97. Cet album, c'est Satisfaction is the Death of Desire, un disque qui va connaître un très bon accueil de la part des médias, qui va permettre aux jeunes combos de tourner avec des grosses pointures, hein, puisque à l'époque ils vont jouer avec Slayer, avec Deftones, avec Napalm Death, et ainsi ils vont élargir leur cercle de fans bien au-delà des fans de hardcore actuels, hein. Ça va devenir un groupe adulé par un public métal relativement large. Alors après, ça c'est en 97, après il va falloir attendre un petit peu puisque l'album suivant, Perseverance, lui ne va arriver qu'en 2002, mais attention, il paraît chez Universal, donc la major des majors, ce qui est extrêmement rare pour un groupe de hardcore de signer sur un très très gros label comme ça. Et en plus d'être extrêmement bien reçu par la critique, cet album là va connaître un énorme succès commercial qui va faire exploser la renommée du groupe à échelle internationale. Et voilà, hein, c'est comme ça que Ed Breed est devenu Ed Breed, j'ai envie de dire. Donc ensuite ils vont enchaîner avec les albums The Rise of Brutality en 2003, Supremacy en 2006, Ed Breed en 2009, The Divinity of Purpose en 2013, et puis en 2016 il y avait eu The Concrete Confessional. Entre temps il y avait eu également en 2009 aussi, je crois, il y a eu un album de reprise aussi de Ed Breed. Je sais pas si vous en avez souvenir, qui était pas mal du tout d'ailleurs. Et donc, après une dernière production studio en 2016, il était donc grand temps pour eux de dégainer à nouveau. Et ce qui nous envoie en pleine face, c'est Weight of the False Self, un huitième album ultra percutant, sans concession, qui a été produit encore une fois par Chris Zeus Harris. C'est lui qui forge le son du combo depuis maintenant pas mal d'années. D'ailleurs, c'est dans la droite lignée de ses prédécesseurs que s'inscrit ce Weight of the False Self. Entendez par là qu'on est sur un son à la croisée du métal, du thrash, du hardcore, avec toujours des paroles incisives mais aussi profondes, scandées par un Jamie Jasta qui lui est toujours aussi vindicatif et rageur. Ed Breed nous livre là une bonne mandale dans les dents, hein, j'ai envie de dire, mais il le fait avec classe, comme en témoigne aussi ce bel artwork, et qui est aussi, tout comme Load Blast, réalisé par Eliran Cantor. Décidément il est partout aujourd'hui. Voici donc Ed Breed avec un extrait de The Weight of the Fall Self. Le morceau s'intitule Instinctive Slaughterlust. C'est tout de suite, c'est sur Bike FM. Shadows born from emptiness. J'espère que vous avez pas trop headbangé trop fort, pas trop près des murs. C'était Headbreed à l'instant sur Back FM dans l'émission de Check Me Load. Vous venez d'écouter le titre instinctif Slaughterlust, extrait de Weight of the False Self, nouvel album du combo du Connecticut qui paraît aujourd'hui. Et bah voilà, à découvrir absolument si vous aimez le hardcore, le bon hardcore, si vous aimez Headbreed. Je pense qu'il y a de quoi vous faire plaisir et vous devriez rajouter ça à vos petites playlists pour ce week-end. On va maintenant parler trash avec un groupe qui a une sacrée carrière maintenant, c'est le groupe Sodom, qui sort aujourd'hui également un nouvel album intitulé Genesis 19. Alors, Sodom, c'est un groupe originaire de la ville de Gelsenkirchen, en Allemagne, un groupe créé en 1982 par le chanteur-bassiste Tom Angel Reaper, qui est actuellement le seul membre d'origine encore présent, c'est lui le maître à bord depuis tout ce temps. Alors, Sodom, c'est du thrash metal, on va dire traditionnel. Il faut savoir que les deux berceaux du thrash, ce sont la baie de San Francisco et l'Allemagne. Et si Sodom est devenu un groupe incontournable de cette fameuse scène thrash teutonne, il a pourtant eu bien du mal à démarrer sa carrière, puisque son premier album, Obsessed by Cruelty, en 86, s'était fait littéralement descendre par la critique, qu'il avait comparé à une pâle copie de Venom dont les paroles peu inventives tomberont vite dans l'oubli. Heureusement, Persecution Mania, paru en 87, va bénéficier, grâce à des compos plus matures et puis d'un plus travaillé aussi, va bénéficier d'un bien meilleur accueil, mais c'est avec Agent Orange en 89, une très belle année pour le hard rock, le thrash, le heavy. C'est cette année-là, avec cet album-là, que la carrière des Allemands va enfin exploser, avec à la clé un très gros succès commercial. Et donc, Sodom va continuer dans sa lancée avec Better of Dead en 90, avec Tapping the Vein en 92, qui va d'ailleurs se démarquer des autres disques du groupe par quelques éléments Death qui vont s'accorder parfaitement à leur trash habituel. Mais attention, hein, parce que si certains mélanges sont explosifs, d'autres ont parfois l'effet d'un pétard mouillé, et c'est ce qui va arriver avec Get What You Deserve en 94, dont le mélange punk et trash sera assez peu concluant. Alors si vous ajoutez à ça une pochette limite grotesque, eh ben vous obtenez un album raté qui est à oublier au plus vite, tout comme le sera son successeur, Masquerade in Blood, même, j'en oublie la moitié du titre, tellement il est mauvais. Ça, c'était en 95. Alors, deux échecs retentissants pour le groupe qui va devoir à tout prix revoir sa copie à ce moment-là s'il veut continuer à avoir une carrière prospère. Et c'est ce qu'il fera avec l'album Till Death Do Us Unite, qui sera un des cartons trash de l'année 97. Et depuis, on peut dire que Sodom a pas mal le vent en poupe, hein, puisqu'il agrandit régulièrement sa discographie avec de très belles pièces. Alors parmi celles-ci, je vous citerai au hasard M16 en 2001, In War and Pieces en 2010 ou encore Epitome of Torture qui était paru en 2013, qui sont des albums très très recommandables que je vous conseille, et une discographie qui compte désormais un 16e album avec la sortie aujourd'hui de Genesis 19, qui marque d'ailleurs le retour au sein du groupe du guitariste Frank Blackfire. Alors lui, il tenait la guitare sur les albums Persecution Mania en 87 et Agent Orange en 89. Blackfire qui est donc de retour au bercail après 30 ans d'absence, et il est de retour pour le plus grand bonheur des fans. Alors, si Sodom révolutionne pas le genre avec Genesis 19, le combo de Teuton est loin de baisser sa garde. Il se paie même le luxe d'écraser l'accélérateur de tempo, de durcir le son et de rendre la voix de Saint Angel Reaper encore plus violente, vicieuse et agressive. En résumé, ça secoue sévère et les choses sont claires. Nos vétérans, ils sont loin d'être prêts à raccrocher les gants. C'est tant mieux. Voici un extrait de Genesis 19 avec le titre Sodom and Gomorrah. Tout de suite, voici Sodom sur Back FM. We'll be right back. Sodom and Gomorrah de Sodom, justement, un extrait du nouvel album du groupe paru aujourd'hui, album qui s'appelle Genesis 1919, étant écrit en chiffres romains X, bâton X, voilà, pour si vous cherchez l'album. Nos vétérans du trash allemand qui sont encore très très en forme, qui sont pas prêts à raccrocher les armes, et ça, ça fait plaisir. Après les vétérans de la scène trash, en voici la jeune garde maintenant avec le groupe Harlotte qui a sorti il y a 15 jours un album intitulé Detritus of the Final Age. Alors Harlotte ne vient pas d'Allemagne ni de la baie de San Francisco, mais ils nous viennent de Melbourne en Australie. C'est un groupe qui a vu le jour en 2006 et actuellement c'est un quatuor composé du chanteur-guitariste Andrew Hudson, du guitariste Leigh Bartley, du bassiste Tom Richards et du batteur Glenn Treherne. Alors là on est pareil hein, sur un thrash metal. Ils sont tout jeunes mais c'est un thrash metal relativement traditionnel, et si Harlotte fait partie de cette jeune garde de la scène trash, qu'il faut d'ailleurs surveiller de très près, c'est du côté de la fameuse scène de la Bay Area de San Francisco, qui est née dans les années 80, et puis également du côté de la scène allemande de la même époque, qu'on a évoqué avec Sodom, que le combo puise ses influences pour donner naissance à une musique à la fois énergique, féroce et rapide, avec tout de même une petite touche mélodique, hein, il faut bien l'avouer. Alors après avoir attiré l'attention de grands noms de la scène trash comme Dave Ellefson de Megadeth avec Origin, son premier album autoproduit paru en 2013, Harlotte est passé à la vitesse supérieure avec Proliferation en 2015, puis Extinction en 2017. Extinction qui marquait l'arrivée des Australiens sur le label Metal Blade Records. Une discographie qui vient donc de s'agrandir hein, avec la parution le 13 novembre de Detritus of the Final Age, un quatrième album alors qui fait guère bouger les lignes du côté de chez nos Australiens, hein, qui continue à explorer des contrées trash old school, mais en ayant tout de même poussé un petit cran au-dessus les curseurs en matière d'agressivité et de dynamisme. Avec Detritus of the Final Age, Harlotte continue à livrer combat à coups de riffs dentelés, de rythmiques effrénées, de paroles rageuses. Ça frappe fort, c'est direct, ça frappe toujours au bon endroit. Non seulement on s'aperçoit avec des jeunes groupes comme ça que le thrash c'est un mouvement qui est loin d'être mort, mais en plus des formations telles que Harlotte continuent à en entretenir le feu sacré. En voici un extrait de cet album Detritus of the Final Age avec un morceau qui s'appelle As We Breach.
Desire, a price for liberation.
As We Breach du jeune combo australien Harlot, du bon vieux trash ici avec un morceau à la Slayer. Il s'agit d'un extrait du nouvel album du combo qui s'appelle Detritus of the Final Age. La jeune garde du trash est en marche, méfiez-vous. Il y a non seulement les vétérans qui font un retour absolument incroyable ces dernières années, plus les jeunes groupes, donc le trash va extrêmement bien et c'est tant mieux. Comme ça, nous, on en profite, on peut en écouter tout le temps dans cette émission. On était en Australie, on va revenir en Europe maintenant et on va s'intéresser à un album live qui est paru la semaine dernière. Il s'agit du premier album live du groupe Ginger, un album qui s'appelle tout simplement Alive in Melbourne. On y était à Melbourne là avec Harlot, hein, puisque eux en sont originaires. Et là, Ginger y a fait un concert il y a quelques mois, que nous retrouvons donc dans cet album. Alors Ginger, c'est un groupe ukrainien qui nous vient d'une ville qui s'appelle Orlivka. Si je le prononce bien, groupe formé en 2009, un des rares groupes de la scène métal ukrainienne à avoir réussi à s'exporter à travers toute l'Europe et même toute la planète, hein, puisque aux USA ça marche très très bien, et puis ils ont tourné jusqu'en Australie, je crois que c'était le seul continent sur lequel ils n'avaient pas encore joué jusqu'à cette année 2020, donc ça y est, ils ont fait le tour de la planète. Alors ils ont joué avec des gens extrêmement importants, hein, puisqu'on les a vus par exemple jouer avec les Cradle of Filth. Et auparavant, Ginger avait assuré la première partie des deux dernières tournées européennes des Suédois de Arc Enemy, donc voilà, un très très beau palmarès. D'ailleurs, puisqu'on parle de d'Arc Enemy, l'autre particularité de Ginger, eh bien, c'est d'être mené par une frontwoman. Je vous dis ça parce que Arc Enemy, c'est également le cas. Et dans Ginger, eh bien, c'est la charismatique Tatiana Shmalyuk qui grôle avec une brutalité et une aisance absolument incroyable et qui, deux secondes après, eh ben, peut passer à un chant clair et suave de façon totalement incroyable et bluffante. Alors c'est quoi Ginger ? C'est du metalcore mais avec des sonorités quand même très marquées par le death, par le new metal, mais également par le rock progressif et puis par tout plein d'autres choses si vous avez écouté leur dernier album. Alors par exemple, Ginger revendique parmi ses influences des artistes aussi variés que Slayer, Opeth, Gojira ou Cypress Hill. Voilà, ça vous pose un peu le truc. Le groupe s'est fait remarquer en Ukraine dès la sortie en 2013 de son premier album, avec lequel il va remporter le prix du meilleur groupe de métal ukrainien qui est décerné par le label Incha Musica. L'année suivante, Ginger va sortir Cloud Factory, son deuxième album, qui a d'ailleurs été réédité en 2018 par le label Napalm Records, sur lequel le combo avait signé 2 ans plus tôt. Et la même année, donc en 2016, ils ont sorti l'excellent King of Everything, qui contient la chanson Pieces. Alors c'est probablement leur titre le plus célèbre, et c'est particulièrement dans ce morceau-là qu'on peut constater la tessiture de voix de la chanteuse, puisque elle chante tout doux, puis tout d'un coup elle se met à grôler comme une folle, et elle revient tout doux, c'est absolument génial. Et puis donc enfin en 2019, ça a été une très grosse année, puisque Ginger a sorti début de l'année l'EP Micro, et puis enfin d'année l'excellent album Macro qui a permis à notre valeur montante de la scène metalcore européenne de s'affirmer et de s'ancrer un peu plus fermement parmi les formations à suivre absolument. Et si l'année 2020 a été quand même très peu conséquente en matière de concerts, hein, Covid oblige, eh bien notre singulier combo ukrainien a malgré tout eu le temps de fouler quelques scènes, comme ce fut le cas donc à Melbourne, c'était le 5 mars dernier, juste avant que la planète ne soit confinée, et ils ont eu le nez assez creux pour immortaliser cette prestation qu'on a découvert donc vendredi dernier sous le titre de Alive in Melbourne, un sublime premier album live qui apporte avec lui toute la puissance que le groupe dégage sur scène, mais aussi toute la justesse de l'interprétation ainsi que la fragilité de l'émotion à fleur de peau de sa charismatique vocaliste. Ce soir-là, le public australien s'était déplacé en masse, hein, puisque le concert s'est joué sold out et ils ont pris une sacrée claque. Voici tout de suite Ginger en live, on va écouter le morceau Teacher Teacher, et si vous cherchez la version originale de ce titre, eh bien vous pourrez la trouver sur l'EP Micro. Voici donc tout de suite Ginger.
Cause it's you.
c'était le groupe Ginger en live sur Bike FM dans l'émission Check Me Load, un extrait de leur premier album live, donc Alive in Melbourne. Vous venez d'écouter le titre Teacher Teacher, c'est un extrait de leur EP Micro qui était sorti début 2019. Très très bon titre et très bon live que je vous conseille. Alors, que vous connaissiez Ginger ou pas, ça peut être aussi l'occasion de découvrir un petit panel de leurs meilleurs titres. Et puis sinon, allez faire un petit tour dans leur discographie studio qui est très très bien aussi. Dernier album qui avait marqué ce début d'année 2000, cette fin d'année 2019, début 2020, et puis les albums antérieurs aussi qui étaient très prometteurs. On va écouter un petit peu de heavy metal maintenant, ça va nous changer un peu du thrash, du death, et on va s'intéresser à un groupe danois, un groupe qui s'appelle Pyramids, qui a sorti le 13 novembre un nouvel album intitulé Epitaph. Donc groupe qui est né en 2001, Pyramids, et qui a pour particularité d'avoir connu depuis ses débuts deux ères bien distinctes. Alors la première, elle débute avec la création du groupe au début des années 2000, groupe créé par le guitariste Michael Kemeyer, et première ère donc qui se clôt en 2011 avec le départ de ce dernier. Et cette première décennie, elle va notamment être marquée par le passage de deux chanteurs, Lance King et Matt Barlow, qui s'est illustré au sein de Ice Doors. Et puis en 2015, il y a une nouvelle ère qui va s'ouvrir après un hiatus de quelques années. Et en fait, cette nouvelle ère, elle va s'ouvrir avec l'arrivée du producteur Jacob Hansen à la guitare et à la basse, en remplacement donc du créateur Michael Kemeyer. Et il arrive pas tout seul, puisqu'avec lui arrive également le chanteur Terry Ayroy, deux nouvelles recrues qui vont littéralement faire renaître Pyramids. Donc, le groupe, quel est son style? Je vous ai dit, c'est du heavy metal, mais si on peut préciser un peu, c'est du power metal aux accents progressifs, symphoniques aussi, parfois. À ce jour, Pyramids a sorti 6 albums studio. Il y en a eu 3 durant la période Michael Kemeyer, puis 3 depuis l'arrivée de Jacob Hansen. Et si dans l'ensemble, tous sont d'assez belles factures. Les plus belles pièces du combo danois sont les plus récentes, c'est-à-dire Disciples of the Sun en 2015, Contingent en 2017, et puis ce nouvel opus qui est Epitaph, qui est paru il y a 15 jours et qui s'impose d'ores et déjà comme une production majeure du groupe. Alors, en effet, ce 6e album studio, il témoigne de la volonté indéniable du combo à passer à la vitesse supérieure. Les progrès en matière de composition et en matière d'exécution, ils sont flagrants, spectaculaires. L'album est d'une cohérence implacable. Les morceaux sont portés par des refrains ultra accrocheurs, des refrains qui sont en plus valorisés par une mise en place parfaite des musiciens, qui est jamais prétentieuse, voilà, c'est propre, c'est carré, mais ils en font pas non plus 3 tonnes. Alors pour la faire brève, ça joue quand même assez grave, mais c'est pas de la démonstration gratuite, si vous voulez. Et puis il y a aussi un son énorme, hein, qui est bien évidemment signé par Jacob Hansen. Quand on a un producteur de cette trempe au sein de son groupe, on profite de ses talents. Et lui, il offre une puissance incroyable au disque, sans oublier le chant, hein, de Terry Ayroy, qui nous emporte littéralement. Epitaph, c'est un véritable bijou de power progressif qui va faire le bonheur des amateurs du genre. Je sais pas, moi, qui peut résister à ces cœurs d'enfants qu'on va entendre dans le morceau World Forgone qu'on va écouter dans quelques instants. Personne, je pense. Voici tout de suite Pyramids sur Bike FM et le morceau, donc World Forgone, c'est tout de suite, c'est sur Bike FM. We'll be right back.
my hunger, greed and waste. What to do when pollution fills every mouthful with distaste? Sad to see our way of life mirrored and we still pretend that the world we've used and drained will last until the end.
World Forgone, à l'instant du groupe Pyramids, un extrait de l'album Epitaph paru il y a 15 jours, très bel album de la part du groupe de power metal danois, un album que je vous conseille, c'est des morceaux très bien composés, très bien exécutés, une belle interprétation, et voilà, si vous êtes amateur de bon heavy, si vous aimez toute cette section de groupe, je sais pas moi, comme Evergrey, alors bien que Pyramids soit beaucoup plus lumineux, cet album devrait normalement vous plaire. Avant de passer à la rubrique sortez cover, une fois n'est pas coutume, je vais de façon exceptionnelle vous présenter maintenant un album qui est paru il y a un an. Alors il est paru il y a un an, mais je l'ai découvert cette semaine en fait grâce au magazine Rock Hard qui en propose une chronique dans son numéro de novembre, donc le numéro de ce mois-ci. Et il s'agit en fait du premier album de l'excellent duo Knucklehead qui, souvenez-vous, s'était produit durant la soirée des Bars à Vif durant l'édition 2017 du festival Nevers à Vif. D'ailleurs, on avait eu le plaisir de recevoir ce détonnant duo durant le direct de la quotidienne de Nevers à Vif et il nous avait littéralement scotché en interprétant une reprise incroyable de la chanson Precious de Depeche Mode. J'avais eu un énorme coup de cœur pour ce groupe qui n'a fait que se confirmer après écoute de cet album que j'ai pu découvrir cette semaine, un album qui s'appelle Two, dont on va écouter un extrait dans quelques instants juste après avoir fait les présentations. Alors c'est vrai que c'est un groupe qui semble débarqué tout droit du Mississippi ou du Dakota, et pourtant c'est bien en Alsace qu'est né en 2016 le duo Dark Country que forment Jack et Jock. Et si certains se demandent ce qu'est le Dark Country, eh bien ils vont vous répondre, ces fameux Jack et Jock, que c'est une alchimie explosive de blues graisseux et de heavy rock, de slides et de riffs rugueux, à la fois rock, blues et country. Ce duo Knucklehead assume d'ailleurs et revendique haut et fort ses influences Made in USA. Tantôt stoner, tantôt psychédélique, les sonorités graves et massives nous offrent un voyage extatique vers l'Amérique, le western sale qui sent la gasoline. Ici, points de groupe ou de chanteurs adulés qui sont cités en référence, on parle plutôt de virer en bécane et de soif sans limite, de liberté et de bourbon. Ça cogne, c'est poussiéreux et roots à souhait, c'est totalement irrévérencieux, c'est sacrément classieux. Vous avez peut-être pu le constater si vous les avez vus à Nevers à Vif, mais leur jeu de scène est à l'image de leur musique, d'une énergie inépuisable. Et voilà, tout ça, ils l'offrent avec passion à leur public, à tel point qu'on a beaucoup de mal à croire qu'ils ne soient que deux sur scène, même sur disque. Alors sur disque, on peut tricher, mais sur scène, on triche pas. Et on se demande comment, à seulement deux, ils peuvent faire autant de boucans. Après un premier EP qui s'appelait Force Ride, qui était paru en 2016, Knucklehead a sorti en septembre 2019, donc une deuxième production studio, intitulée Too. Et cette fois, c'est un album composé de 8 titres totalement jubilatoires. Alors non seulement les morceaux sont redoutablement efficaces et fichtrement bien foutus, mais en plus, notre duo les incarne avec une force et une conviction authentique et viscérale. Plus qu'un premier album, Knucklehead nous offre ici avec tout un véritable road trip en Harley sur les routes les plus poussiéreuses d'Amérique, en faisant escale dans les bayous les plus humides ou dans les coins les plus reculés des Appalaches. Vous savez, ces petits coins des Appalaches où des petits garçons étranges jouent du banjo, là. Vous avez déjà vu ce film-là? Un peu choquant. Ouais, vous me comprenez, hein. Donc, voilà, j'ai pris une énorme claque en écoutant cet album, et même si c'est plus vraiment une nouveauté, puisque voilà, il est sorti en 2019, et même le groupe planche déjà sur son successeur, c'était pour moi inimaginable de pas partager mon engouement immense avec vous dans cette émission. Donc, j'ai fait tout pour pouvoir me le procurer, je l'ai en main, c'est bon, donc voici tout de suite les Knucklehead avec le morceau Gasoline. C'est un extrait donc de cet album qui s'appelle Too, et je pense que ce titre-là devrait énormément tourner sur les ondes de Back FM dans les semaines à venir. Tout de suite, Knucklehead.
Yeah.
l'excellentissime Gasoline des Knucklehead, un extrait de leur album Too, alors qui est paru il y a un an, un peu plus d'un an maintenant, mais qui est excellent, donc je vous invite vraiment à aller découvrir absolument sans plus tarder. Merci à Rock Hard de les avoir mis en lumière ce mois-ci, non seulement avec une interview, mais également avec une chronique de l'album, parce que c'est là où ça m'a fait tilt. Je me suis dit, mais attends, Knucklehead, ça j'ai déjà vu ça quelque part, ils sont venus sur le plateau de Back FM pendant 9 heures à vif, c'était génial, et du coup ça m'a donné envie d'aller écouter ce deuxième opus, premier album, et je suis pas déçu parce que c'est vraiment mon gros coup de cœur du moment. Voilà, il est temps de passer à la rubrique sortie cover, puisque je suis en train de grappiller là sur l'heure suivante. Normalement, l'émission devrait déjà être terminée, je vous le dis, mais bon, on va quand même prendre le temps de faire une conclusion digne de ce nom avec cette fameuse rubrique sortie cover qui nous emmène chaque semaine visiter une reprise. Alors, imaginez que vous faites partie d'un groupe et que de temps en temps, pour vous faire plaisir, bah vous faites quelques reprises des formations qui vous ont le plus influencé, celles qui ont forgé les musiciens que vous êtes. Voilà, donc vous vous faites plaisir, vous êtes un peu connu, donc vous les sortez, ces reprises, elles sont appréciées. Et puis, imaginez qu'un jour, ce soit un de ces fameux groupes que vous avez repris qui enregistre une reprise, mais cette fois-ci d'une de vos chansons à vous. Je crois qu'à ce moment-là, on peut dire que la boucle est bouclée, et c'est ce qui arrive aujourd'hui avec la sortie de la chanson No Remorse de Metallica par le groupe Diamond Head. Alors, c'est qui Diamond Head ? Eh ben, c'est un groupe de heavy metal britannique qui est né à Stourbridge en 76, sous l'impulsion notamment du guitariste Brian Tatler, qui en est toujours le leader aujourd'hui. Et ce combo-là, il va largement contribuer à l'émergence de la fameuse New World of British Heavy Metal, qui va naître au début des années 80, et dont sont issus également Iron Maiden, Judas Priest ou encore Saxon. Alors, c'est vrai que Diamond Head ne bénéficiera jamais d'une popularité et d'un succès commercial aussi énorme que les poids lourds que je viens de citer, mais son influence sera telle qu'elle va être revendiquée par des mastodontes de la scène trash tels que Metallica, donc, ou Megadeth, qui deux groupes qui ont été particulièrement marqués par l'album Lightning to the Nation, le tout premier album de Diamond Head, qui est paru le 3 octobre 1980, donc il y a 40 ans, et qui contient des titres emblématiques comme Am I Evil, Electric aussi, deux titres que Metallica a d'ailleurs brillamment repris, et c'est bien sûr cet album devenu culte que Diamond Head a choisi de réenregistrer cette année, bah justement hein, pour en célébrer les 40 ans, et qui ressort aujourd'hui sous le nom de Lightning to the Nation 2020, avec en bonus 4 reprises. Alors on trouve Immigrant Song de Led Zeppelin, Sinor de Judas Priest, Rat Bad Blue de Deep Purple, et donc No Remorse de Metallica, qui je trouve est la plus intéressante des 4, et ça tombe bien puisque c'est celle-là qu'on va écouter dans cette émission. Alors, No Remorse, c'est un extrait de Kill 'Em All, le tout premier album de Metallica, qui est paru le 25 juillet 83. C'est cet album hein, qui va marquer le début de la légende des Four Horsemen, avec notamment sa célèbre pochette sur laquelle on voit l'ombre d'une main sous un marteau ensanglanté. À l'époque, Kill 'Em All va se distinguer par un tempo extrêmement rapide dans la plupart des chansons. La voix de James Hetfield, elle est encore très criarde, et si vous jetez un œil sur le livret de l'album, et ben vous verrez qu'un certain Dave Mustaine est crédité en tant que compositeur de quelques titres, et pour cause, le futur frontman de Megadeth s'était fait virer de Metallica juste avant l'enregistrement de l'album Kill 'Em All. Alors, d'une durée de 6 minutes 26 secondes, No Remorse, c'est une véritable hymne anti-guerre, c'est une chanson très rythmée, très rapide, qui comprend énormément de changements de tempi, qui comporte aussi pas mal de riffs, c'est un morceau qui est très populaire hein, dans le large répertoire de Metallica, et d'ailleurs, elle a inspiré la bande-son du premier jeu vidéo Doom. Donc bon voilà, je pense que vous savez assez de choses sur le morceau No Remorse de Metallica pour l'apprécier maintenant revu et corrigé par Diamond Head. Diamond Head, un des groupes qui a le plus influencé Metallica, morceau que vous pourrez retrouver aujourd'hui à partir d'aujourd'hui sur l'album Lightning to the Nation 2020. Quant à nous, eh bien on va se donner rendez-vous vendredi prochain, même heure, même station. En attendant, stay heavy, stay rock and roll, et surtout prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Salut à tous, voici tout de suite Diamond Head.